au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouveau Au fil des pages, qui nous donne le grand plaisir d'accueillir Jacques Marseille. Jacques Marseille, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous recevons, bien sûr, pour saluer la parution de votre remarquable ouvrage, paru chez Perrin, L'argent des Français, les chiffres et les mythes. Alors, c'est un ouvrage monumental, puisqu'il a près de 400 pages. Un ouvrage qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de ceux que vous avez fait paraître précédemment et qui ont toujours surpris et interrogé et suscité la réflexion d'un public qui a toujours réservé un accueil assez remarquable à vos ouvrages. Alors, je voudrais vous présenter un petit peu, bien que je crois qu'on vous connaît beaucoup à travers vos interventions dans les médias. Vous êtes un historien de l'économie. Et vous êtes professeur à la Sorbonne, vous dirigez l'Institut d'Histoire économique et sociale. Vous êtes chroniqueur, bien entendu, et vous intervenez sur tous les médias nationaux dans des réflexions sur tous les sujets, et pas simplement que des sujets économiques. On dit que vous êtes un des conseillers très écoutés de notre président, Nicolas Sarkozy, entre autres. Et vous êtes bien sûr un auteur prolifique et à succès. On se souvient que vous avez notamment fait paraître chez Perrin, toujours c'est le même éditeur, La nouvelle histoire de la France en 1999, ou bien encore Du bon usage de la guerre civile en France. Donc je veux dire que ça rejoint un petit peu le sujet. Alors, première question, forme un petit peu de peut-être de boutade ou de poil à gratter. Est-ce qu'historien, économie, l'histoire et l'économie, est-ce qu'ils arrivent à faire bon ménage? En tout cas, vous êtes arrivé, semble-t-il, à les réconcilier au moins dans votre ouvrage.
Je crois surtout qu'elles sont un formidable médicament contre l'anxiété et l'angoisse. L'histoire de l'économie, c'est quand même beaucoup moins cher que les antidépresseurs. oui. Quand on fait l'histoire de l'économie, par exemple, on se rend compte que les crises, il y en a toujours eu dans notre histoire, qu'elles se reproduisent à intervalles réguliers, que les plans de relance en général n'ont aucun effet sur la reprise, et que celle que nous vivons est finalement, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins grave que celle de 1929. Donc, faire l'histoire, c'est Marc Bloch, que vous avez cité, je dirige l'Institut d'Histoire économique et sociale, qui avait été créé pour Marc Bloch en 1939. Il dit souvent, l'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Et je crois que c'est ça la devise de l'historien économiste.
Bon, alors, d'accord, donc là vous mettez la barre déjà très haute. Et donc, vous vous attaquez dans cet ouvrage à un véritable tabou. L'argent surtout, les Français peut-être un petit peu aussi, mais en tout cas, le mix des deux est complexe. Des chiffres et des mythes. Votre thèse, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux, de vous attaquer aux mythes et de mettre le doigt sur ce que les chiffres témoignent, entre autres.
Oui, enfin, le but du livre, c'est d'essayer de, encore une fois, c'est un pari un peu insensé, je crois, dans la France d'aujourd'hui, de montrer aux Français qu'ils ne sont pas si malheureux qu'ils le pensent et qu'en longue durée, le progrès a été considérable. Donc, chaque partie du livre, en fait, porte un chiffre comme titre. La première grande partie, elle s'appelle, c'est curieux peut-être pour un livre, mais j'ai appelé cette partie 1,6%. Pourquoi ? Parce que quand on reconstitue en longue durée l'évolution du pouvoir d'achat des Français, eh bien la moyenne annuelle de cette hausse, c'est de 1,6%. Alors vous allez me dire, 1,6%, c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, ça représenterait 30 euros par mois. Mais 1,6% pendant 170 ans, car c'était la période que j'ai couverte, ça fait qu'aujourd'hui, on gagne 15 fois plus qu'il y a 170 ans en travaillant deux fois moins. Donc le progrès est considérable. Et ce progrès, il est considérable. La France ne fait pas exception. Je veux dire que j'ai fait à chaque fois des comparaisons avec les autres pays. Et ce chiffre, ce chiffre, 1,6% de croissance moyenne annuelle, hors inflation bien sûr, en réalité de pouvoir d'achat, c'est à peu près ce qui s'est passé dans tous les pays industrialisés. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'attrister, s'affliger et de penser que nous vivons des périodes difficiles. Ce que nous avons vécu depuis un siècle et demi, et j'en détaille d'ailleurs les cycles et les mouvements, c'est une immense période de progrès.
D'accord. Alors le problème, c'est que, et là vous allez paraître un peu pour un hérétique, c'est qu'en économie, seul existe que ce qui est perçu.
Oui.
Et en plus, la moyenne sur une longue période, c'est une chose, mais le court terme, c'est l'instant de la mémoire. Et donc, c'est peut-être un peu cette contradiction, c'est des deux éléments qui sont des réalités qui s'entrechoquent pour peut-être justement poser cette grande question du rapport de l'argent et des Français.
Oui, c'est une grande question en effet, et je cite à un moment dans le livre une réflexion un peu désabusée, il faut le dire, de Schumpeter, grand économiste du début du XXe siècle, qui disait « Le capitalisme est un excellent système pour les petits-enfants ». C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le progrès, effectivement, on le mesure en longue durée, mais l'insécurité des périodes dans lesquelles on vit fait qu'on a toujours beaucoup de mal à percevoir ce progrès. Par exemple, j'ai étudié les cycles de ce mouvement. Et aujourd'hui, depuis les années 80, c'est vrai qu'en France, on est en dessous de cette ligne de 1,6%, un tout petit peu en dessous. Et c'est probablement ce qui, aujourd'hui, explique en grande partie l'anxiété des Français, leurs doutes sur le système économique, leur idée que leur avenir est moins brillant pour leurs enfants que celui qu'ils avaient eu. On est dans une période, aujourd'hui, de l'histoire, plutôt de vaches maigres que de vaches grasses. Alors, ce que j'explique aussi dans le livre, c'est que, et ça, c'est pour les Français, ça va être difficile peut-être, c'est surtout difficile à comprendre pour Jean-Claude Trichet, c'est que les périodes de vaches grasses ont été les périodes où l'inflation a été plus élevée que la moyenne. C'est une des réflexions et des leçons, j'allais dire, si on peut dire, qu'apporte le plus l'étude que j'ai pu faire.
Oui, alors ça c'est un point, le sujet de l'inflation et de la Banque centrale, sur lequel on reviendra, parce que là, pour le coup, là aussi, vous mettez la barre très haute dans le contexte. Mais avant peut-être d'en venir à ce sujet qui effectivement est central, mais très discuté par les économistes. Je rappelle que vous êtes un économiste libéral, plutôt.
Oui,
classé.
plutôt
classé dans ce domaine. Quelques questions, on va dire, qui, bien sûr, sont développées dans votre livre. Et bien sûr, nous renvoyons nos auditeurs à la lecture de... Il ne faut pas qu'on dévoile tout, sinon ça n'a plus d'intérêt. Hein, bon. Mais donc, une des affirmations qui me paraît extrêmement intéressante, c'est « Les pauvres ne sont plus riches que ce que l'on croit ». à la page 82. Alors, ils sont plus riches, en réalité, surtout à travers le patrimoine.
Oui.
Le patrimoine qu'ils ont constitué, enfin.
Ce qu'on constate, c'est que déjà, et on a du mal à l'admettre, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de pauvres aujourd'hui qu'il y a même 30 ans. Et en nombre, en pourcentage de population, ça a été divisé par 2. Deuxième élément que l'on a du mal à comprendre, c'est que le taux de pauvreté en France est plutôt inférieur à la moyenne de celui de l'Europe. Ça aussi, les Français ont du mal à l'accepter. Et que finalement, et c'est une grande réflexion des économistes libéraux dans le monde entier, c'est que, et c'est quand même une très bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même relativement facile de sortir de la pauvreté. C'est-à-dire que la question de la pauvreté est une question essentielle en histoire économique et en économie. La question, ce n'est pas combien de pauvres, c'est combien de temps je risque de rester pauvre. On constate par exemple qu'aux États-Unis, 70% des pauvres d'une année 1 ne le sont plus en année 2.
Et donc
la question, c'est comment faire, non pas pour éradiquer la pauvreté, parce que ça c'est une utopie, on n'est jamais et depuis qu'on mesure, il y a toujours eu un volant de la population qui est pauvre. Et ça, c'est une triste fatalité.
C'est comme le taux de chômage.
Les premières mesures de la pauvreté, ça vient en France, par exemple, du comité de mendicité à l'époque de la Révolution française, qui avait, la première enquête statistique à l'époque, avait chiffré à 10% de la population française le nombre de pauvres. Curieusement, c'est à peu près le même nombre aujourd'hui. Donc, alors que le progrès était considérable. Donc, le taux de pauvreté reste à peu près identique. La seule question qui compte et la seule politique qui vaille, c'est comment faire pour qu'il y ait une très forte mobilité. Et ça paraît un peu dur, ce que je dis. Je dirais qu'une politique n'a aucun moyen d'éradiquer la pauvreté. La seule politique qui puisse être menée, c'est comment faire pour que les pauvres ne le restent plus. Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui vont entrer en pauvreté. L'essentiel, c'est qu'ils en sortent plus qu'il en entre. Voilà la vraie politique. Parce que dire qu'on va supprimer la pauvreté,
ça, c'est une utopie.
C'est une utopie totale.
Alors je vous cite à la page 81, c'est ce que, en synthèse ce que vous venez de dire. Autrement dit, le patrimoine donne le pouvoir sur sa propre vie Idée reprise, vous citez l'économiste péruvien Hernando de Soto.
Très grand économiste.
Sur le mystère du capital. Les pauvres ne sont pas le problème, ils sont la solution. Ce n'est pas de notre compassion dont ils ont besoin, mais des droits de propriété qui leur permettront de faire fructifier leur capital et leur talent. Aujourd'hui comme hier, pour reprendre sa formule, les pauvres sont plus riches qu'on ne le croit.
Absolument. Et il faut lire le mystère du capital d'Hernando de Soto, qui était un livre absolument exceptionnel, basé sur des enquêtes menées dans le monde entier, qui montrent qu'en fait, que les pauvres du monde entier, si on prend l'ensemble de ce qu'ils possèdent, mais ce qu'ils possèdent, ça veut dire une vache, un mouton, une échoppe, un atelier, une petite boutique, un atelier de confection, une machine à coudre, eh bien, ils montrent que les biens et les capitaux détenus par les pauvres du monde entier sont supérieurs à la capitalisation boursière de l'ensemble des pays industrialisés. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un problème, la pauvreté. Ce qui est un vrai souci aujourd'hui, c'est de permettre à ces pauvres de devenir entrepreneurs. C'est ça la vraie question. Et c'est là-dessus qu'Hernando de Soto, et je reprend bien sûr une partie de ses travaux, pour la France également, on met le doigt et de manière absolument passionnante.
Alors pauvreté, ça renvoie aussi au progrès. Le progrès, vous développez ce concept très largement, mesurer quoi, page 31. Je vous lis ce que vous écrivez, comme si progrès était synonyme de beaucoup produire. Une confusion qui explique sans aucun doute la fracture qui s'est établie depuis un certain nombre d'années entre les faits et leurs représentations, entre les chiffres et les mythes. Même si le produit intérieur brut reste cet indispensable outil de mesure de la croissance, dans le temps et dans l'espace, ce chiffre magique, attendu chaque trimestre avec impatience, ne saurait mesurer le bien-être.
Et non, et c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a réuni une commission pour réfléchir justement à ce PIB qui reste notre totem sur lequel effectivement on se dit mais quel va être le PIB en 2009. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez deux pays absolument identiques. Dans l'un des pays, l'urbanisme a été fait de telle manière que chacun peut aller travailler de son domicile à pied, se rendre au spectacle, se rendre faire ses courses, se rendre dans les lieux publics, emmener ses enfants. Un urbanisme qui permet à chacun de ne pas avoir de voiture et de pouvoir faire tout dans un espace de temps réduit. Un autre pays a un urbanisme complètement différent. Vous avez les lieux d'habitation à un endroit, les lieux de travail à un autre endroit, les lieux de... Et donc, chaque membre de la famille doit avoir sa voiture pour aller se transporter, parce qu'il n'y a pas en plus de transport public. Et bien, quel est le pays qui sera le plus riche? Celui où les gens vont passer 2 à 3 heures par jour dans leur voiture, rentrer chez eux dans un état de dépression totale, consommer des antidépresseurs parce qu'ils auront gâché une partie de leur journée, et aller chez réparateur mobile pour faire réparer les carrosseries amochées. Et donc, le pays le plus pauvre sera le pays où les gens seront le plus heureux, auront un bonheur de vivre plus important, un espace de vivre plus important. Donc c'est vrai que le PIB mesure aussi bien les richesses créées que les nuisances qui sont liées à la création de ces richesses. Et donc ça impose effectivement de réfléchir un peu. Les PIB ont été créés au lendemain de la guerre pour mesurer la production de blé, de ciment et d'acier.
D'accord. Rien à voir avec...
Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils soient vraiment adaptés à la société dans laquelle nous vivons.
Très, très juste. Et donc le progrès, c'est aussi l'espérance de vie, parce que ça c'est un côté absolument indéniable. Mais vous dites quelque chose qui décoiffe, comme on dit maintenant, à la page 15 de votre ouvrage. Quasiment imperceptible, sauf que 1,6% par an depuis 160 ans permet par exemple aux Français de vivre aujourd'hui près de 40 ans de plus que ceux qui vivaient à l'époque de Guizot. À cette date, l'espérance de vie des hommes à la naissance, fortement compromise par le taux de mortalité infantile, était de 39 ans. Elle est aujourd'hui de 76 ans, mais... À quoi sert de vivre pour se plaindre et nier le progrès?
Oui, c'est une réflexion un peu désabusée, ce qui est vrai. Mais ce que les Français, par exemple, aujourd'hui, quand ils comparent leur salaire, leur pouvoir d'achat, oublient qu'une grande partie de leur salaire va servir à les payer, à leur assurer des revenus, 20, 25 et même 30 ans après leur départ à la retraite, va couvrir leurs dépenses de santé, et que ça, par rapport à une quarantaine ou une cinquantaine d'années, c'est un progrès absolument colossal. Mais tout progrès perçu comme naturel n'est pas perçu, évidemment, par ceux qui le vivent comme un progrès. Il n'y a rien de pire que de faire essayer de faire accepter l'idée de progrès à ceux qui en bénéficient. D'ailleurs, les économistes américains ont fait des tests, d'ailleurs. Si vous augmentez quelqu'un, par exemple, de $100 par mois, eh bien, le mois d'après, il aura déjà intégré que le 80 sur 100 était déjà dû. Donc son bonheur se limitera au 20 sur les 100 qu'il a reçus. Donc finalement, on peut se poser la question, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'augmenter le salaire des gens ? Puisque de toute façon, à partir du moment où vous les augmentez, eh bien, l'acquis et le progrès, dès le mois suivant, va être considéré comme normal. Et donc, ils seront toujours en frustration. Donc,
toujours, c'est une course sans arrêt.
C'est une course à l'anxiété, une course à la détresse humaine. Et c'est un peu triste, finalement. C'est pour ça que l'historien devrait avoir un rôle de thérapeute, parce que l'historien a pour vocation de montrer d'où on vient et l'immensité du progrès réalisé dans un temps si court. Mais voilà, une fatalité. Essayer de faire passer ça dans l'opinion, c'est pas chose facile.
En tout cas, je pense que vous y arrivez au moins sur un point. Et en plus, vous êtes aussi pédagogue au niveau de l'économie. Donc ça veut dire que vous êtes thérapeute et pédagogue.
On essaye.
Alors, ça rejoint la notion de progrès. Vous parlez dans votre chapitre 18, la page 155, des impasses de la pauvreté. Et là, vous dites deux choses qui vont faire bondir à gauche. Les profits sont-ils la cause de la pauvreté ? Il semble que vous répondiez non. Et parce que, notamment, le travail a plus rapporté que le capital. Et qu'en tout cas, les équilibres de tiers, un tiers entre les deux sont constants sur longue période.
Enfin, tout à fait. C'est Keynes qui avait fait cette observation très empirique. Il avait essayé de calculer quel était le pourcentage de ce que recevait le capital et le pourcentage de ce que recevait le travail en longue durée. C'était deux tiers pour le travail, un tiers pour le capital. Et c'est vrai que ce pourcentage a été très respecté en longue durée. C'est assez intéressant, je montre aussi, et ça c'est un passage qui sera désagréable pour certains, que le moment de notre histoire où le pourcentage de la part de la valeur ajoutée allant au capital a le plus augmenté, et donc celle où la part du travail a le plus baissé, c'est en 1983, grâce ou à cause des socialistes, qui, après avoir fait un plan de relance calamiteux en 81, 82, 83, sont obligés d'adopter un plan de rigueur, et la courbe que je montre et que je reproduis dans le livre est accablante pour les socialistes. C'est-à-dire que c'est comme si le capital avait eu besoin des socialistes pour restaurer sa part à partir de 1983. Et ça, c'est la réalité qu'il faut vraiment accepter. C'est à partir de 1983 que la désinflation, que le plan de rigueur, que la conversion au marché de ceux qui n'en étaient pas les plus partisans a probablement joué un rôle sur la société française dépressif. Parce que les socialistes qui pensaient avoir changé la vie se sont rendus compte qu'ils ne le faisaient pas, mais en ont gardé la nostalgie. Et donc il y a tout un peuple qui s'est peut-être un peu détourné de l'utopie politique, c'est-à-dire de l'idée que les politiques avaient un pouvoir sur le fait de changer la vie. Et c'est peut-être de ça dont la France est malade finalement depuis une vingtaine d'années.
Alors cette maladie, cette nostalgie, ça renvoie au bonheur. Nous allons en parler dans quelques instants après une courte pause.
Un jour dans l'histoire revient sur les raisons de la condamnation par l'église de Galilée copernicien en compagnie d'Aimé Richard. Pour tout comprendre sur le contexte politique, scientifique et historique, téléchargez dès maintenant cette émission sur Canal Académie.
Bien, chers amis, nous retrouvons l'auteur à succès Jacques Marseille pour son remarquable ouvrage paru chez Perrin, L'argent des Français, les chiffres et les mythes, 400 pages. Alors, nous avons déjà fait un tour important de vos thèses et je voudrais qu'on revienne sur la notion de bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, on le sait depuis très, très longtemps, mais ce que vous dites, c'est que le bonheur est d'abord relatif.
Tout à fait. On a fait des tests auprès des étudiants à Harvard, par exemple. On leur dit, écoutez, voilà, on vous donne 50 000 dollars par an, mais il y a des gens qui vont gagner 100 000 dollars. Et on leur dit, on vous donne 50 000 dollars par an, mais tous les autres vont gagner 25 000 dollars. C'est-à-dire qu'on leur propose de doubler leur salaire, mais avec des salaires plus élevés. Et ils répondent tous qu'ils préfèrent gagner moins, mais gagner plus que les autres. C'est-à-dire que, en fait, le bonheur, c'est pas de dire combien j'ai besoin pour vivre la vie que j'ai envie de mener, c'est comment je me situe dans la société. Et c'est ce que Fourastier appelait dans un livre très célèbre « Le jardin du voisin ». Et les Français sont obsédés pour regarder sans cesse dans le jardin du voisin. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de dire combien j'ai besoin, de quelle est ma vie, voilà ce que j'ai, et est-ce que ce que j'ai me suffit pour mon bonheur ? Non, mon bonheur sera toujours entaché de doutes si mon voisin, mon ami, le mari de ma sœur, eh bien, il a plus que moi. Et ça, c'est absolument insupportable.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les films américains où les traders qui gagnent plusieurs millions d'euros sont très malheureux lorsqu'ils vont dans les meilleurs lotissements et où...
Tu te rends compte qu'il y en a qui gagnent plus qu'eux.
Voilà, donc c'est tout à fait, et ça, le bonheur, effectivement, reste tout à fait relatif.
C'est une philosophie, c'est pas une mesure, oui.
La question que je voulais vous poser dans cet ordre d'idées, et qui rejoint votre observation de tout à l'heure, vous dites à la page 177, le bonheur est dans l'inflation. Je lis ce que vous écrivez, de la même manière, un monde plus heureux n'est pas fatalement un monde où les prix sont stables, mais un monde où l'inflation donne le sentiment que les revenus augmentent, même si les prix suivent ou précèdent la hausse. Car encore une fois, ce n'est pas le pouvoir d'achat savamment mesuré par la relation entre salaire et prix qui stimule les individus, mais l'optimisme et le désir de mieux vivre que suscitent les hausses nominales de revenus. Alors ça, c'est un sacré pavé dans la politique
oui,
de la BCE.
Oui, j'avais déjà écrit en 1983, vous voyez, il y a longtemps, un livre qui s'appelait « Vive l'inflation », donc qui était déjà une première édition de ces phrases. Mais je veux dire que c'est malheureusement ou heureusement, c'est absolument imparable. C'est-à-dire que depuis qu'on observe les mouvements des prix et des revenus, et je l'ai fait sur ces deux siècles, les moments où le revenu des Français augmente le plus en termes de pouvoir d'achat, pas en revenu nominal, donc en pouvoir d'achat, eh bien ce sont les périodes où l'inflation est la plus élevée de l'ensemble de la période. Donc si je prends le moment de l'histoire où le pouvoir d'achat des Français s'est le plus accru pendant les 30 glorieuses, eh bien, je rappelle que l'inflation était de 5 à 6% par an. Et que ça n'a absolument pas gêné les Français, je dirais même au contraire, ça leur a permis de devenir propriétaires, ça leur a permis de acquérir des biens comme la machine à laver, comme le réfrigérateur, comme les téléviseurs, de rembourser leurs emprunts avec une monnaie dépréciée, c'est un vrai bonheur. Et donc si aujourd'hui on diabolise autant l'inflation, j'ai une explication, c'est parce que l'Europe est vieillissante et que l'inflation finalement c'est le bonheur des jeunes, mais l'angoisse des personnes âgées qui eux vivent des revenus de la redistribution.
Je vous dis très exactement, page 192, vous dites « Le combat de la BCE contre l'inflation comme est le combat de l'épargne contre le travail, de la rente contre l'investissement, de la vieillesse contre la jeunesse, investissement massif dans l'énergie, le logement et les transports, rattrapage en matière d'équipement téléphonique, mise sur pied tardive d'un État-providence de haut niveau, intervenant dans tous les aspects de l'existence, de la maternité aux soins palliatifs, etc. » la BCE...
La BCE représente d'une certaine manière l'évolution de l'Europe qui fait que dans une dizaine d'années, 35% de la population de l'Europe aura plus de 65 ans. Et donc, quand vous avez. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'Européens de plus de 65 ans que d'Européens de moins de 20 ans. Hein. Et les Européens de plus de 65 ans, la différence des moins de 20 ans, c'est qu'ils votent. Et donc, le pouvoir aujourd'hui appartient à ceux qui ont la hantise de l'inflation. Parce que comme ils ne vivent plus des revenus du travail, mais qu'ils ne vivent que des revenus de la redistribution, eh bien, ils sont tétanisés, évidemment, par une inflation qui pourrait amoindrir leurs revenus. Donc, ils se défendent logiquement.
Tout à fait.
Et donc, à travers l'inflation, on voit non plus la guerre entre les prolétaires et les bourgeois, mais la guerre entre les jeunes et les personnes âgées.
Oui, d'accord. Ça, c'est le vaste, vaste problème. Et l'arbitre, c'est qui, alors ?
L'arbitre, pour l'instant, l'Europe a confié... l'arbitre, c'est l'électeur, puisque c'est lui qui est le plus nombreux. Donc l'Europe a confié l'arbitrage à une banque centrale européenne
qui
représente les angoisses de l'Allemagne, un pays où la chute mortelle de la fécondité va faire que l'Allemagne va perdre 11 millions d'habitants dans les 50 prochaines années et qu'à ce moment-là, la gérontocratie allemande sera un poids pour l'Europe. Et en choisissant le modèle de la BCE qui est le modèle de la Bundesbank, nous avons choisi le modèle de la gérontocratie et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe.
Oui, mais la BCE, elle a comme mandat...
De combattre l'inflation.
Voilà. Et donc, ça veut dire que les responsables, ce n'est pas le gouverneur de la BCE, c'est ceux qui donnent le mandat.
Oui, mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est justement à quel point cette diabolisation de l'inflation qui touche toutes les catégories de population. Vous faites un radio-trottoir, les gens vont dire « Ah non, l'inflation, c'est horrible », est absurde. Et quand on regarde, parce que, encore une fois, je m'inspire beaucoup de Fourastier, quand vous regardez en longue durée les prix et que non, vous les divisez par le salaire, c'est-à-dire... En fait, la vraie méthode que je l'applique beaucoup dans le livre, c'est combien je dois travailler de minutes pour m'acheter tel objet ou m'acheter tel service en longue durée. Tous les prix baissent. Tous les prix baissent. L'observation des prix nominaux, pour dire voilà, ça coûte tant, n'a strictement, en histoire longue, aucun intérêt. C'est combien je dois travailler de minutes et d'heures pour m'offrir tel bien. Et quand vous faites ce calcul, ce que j'ai fait dans le livre, eh bien vous constatez qu'à l'époque de l'inflation, tous les prix baissent. tous les prix baissent.
Et donc, il semble d'ailleurs que vous ayez quelques échos du côté des sphères gouvernementales. L'histoire est encore longue.
Oui, oui. Le combat est dur.
D'accord. Alors, tout ceci aussi nous renvoie à la fiscalité. Et vous avez une définition de l'ISF qui est assez personnelle, puisque vous, l'ISF égale incitation à sortir de France.
Incitation à sortir de France, oui.
Oui, alors, donc, c'est un impôt que vous considérez comme tout à fait inadapté.
Absurde. C'est un impôt, d'ailleurs, il est tellement absurde que les 26 autres pays de l'Union européenne l'ont abandonné, sauf nous. Alors, on pourrait dire que s'il n'y a que nous qui le maintenons, c'est notre génie propre qui fait que, en dépit de ce que pensent les autres,
vous êtes cruel.
Mais je veux dire que c'est quand même extraordinaire. La France a un vrai génie, c'est de créer des impôts qui rapportent moins qu'ils ne coûtent. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que rapporte l'ISF, le coût de sa perception et le nombre de contribuables et de bases imposables qui sont partis de France depuis une quinzaine d'années, c'est un impôt qui rapporte environ 3 à 4 milliards d'euros par an et qui nous a coûté depuis sa création environ 150 milliards de bases imposables qui sont partis de France. Je crois que dans l'histoire de la fiscalité, c'est un cas d'école. Je crois qu'on n'a jamais découvert et appliqué un impôt qui coûte plus qu'il ne rapporte. C'est français, c'est notre génie national. Et donc, j'ai un chapitre
sauf que ça se heurte à des peurs des deux côtés, on va dire, du pouvoir à gauche ou du contre-pouvoir à gauche et du pouvoir à droite, parce que cette évidence-là, ils la connaissent tous, sauf que personne ne veut changer de position.
Et non, c'est-à-dire que la gauche en fait un slogan de campagne qui était pour elle pain béni. Donc, il faut faire payer les riches pour soulager les pauvres. Donc, ça ne mange pas de pain. Et on peut le refaire à chaque campagne électorale. Et puis, la droite, même Nicolas Sarkozy, est tétanisé par l'échec de Chirac en 88, qui avait supprimé l'ISF en 86, quand il est réuni.
Et il est persuadé
qu'il a perdu les élections de 88 à cause de cela. Et donc, Nicolas Sarkozy a inventé une mécanique qu'on appelle le bouclier fiscal.
Oui, qui par contre a fait un deuxième effet boomerang.
Tout le monde sait que l'ISF, c'est absurde, que ça n'a aucun sens, mais même la droite, c'est comme les 35 heures, c'est pareil, même la droite n'ose pas y toucher. Ça, c'est vraiment une originalité française.
Oui. Qu'est-ce qui fera qu'on y touchera? Ça, c'est une question
C'est une question que je pose. Et ce que je dis d'ailleurs à la fin du livre, c'est que finalement, il est beaucoup plus facile de faire des révolutions que des réformes. À partir du moment où vous avez un enchevêtrement de mesures complexes, inefficaces, dont on finit par démontrer l'inutilité, finalement, les supprimer est beaucoup plus facile que de réformer. Finalement, faire la révolution, c'est plus facile aujourd'hui que faire la réforme sur le plan fiscal, je dis bien.
Ça veut dire, est-ce que la France est gouvernable aussi?
Oui, c'est-à-dire que ce que je dis et ce qu'il faut dire, c'est que la France bouge en fait. C'est-à-dire qu'elle donne le sentiment de ne pas bouger, mais elle bouge énormément. Il y a une trentaine d'années, l'industrie représentait 30% du PIB, aujourd'hui 15%. Il y a une trentaine d'années, les ouvriers représentaient 40% de la population, aujourd'hui 20%. Il y a une trentaine d'années, les services étaient à peine comptabilisés dans la comptabilité nationale.
Donc en tendance lourde, les choses quand même,
les structures bougent beaucoup,
se déforment.
Mais c'est l'historien, c'est son pain quotidien. C'est le contraste entre les évolutions des faits qui sont considérables et la perception des faits. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça, c'est la perception. Et on a du mal à percevoir les choses en évolution.
Alors donc, ce qui est perçu n'est pas juste, mais c'est ce que les Français ressentent. Et donc, vous proposez, là encore, vous mettez la barre extrêmement haute, de revenir, en quelque sorte, aux fondamentaux de l'humanité, avec des thèses qui ont déjà été reprises par Thomas Paine dans son ouvrage « Justice agraire ». Et c'est-à-dire de considérer que tout Français, dès sa naissance, a droit, pour le reste de sa vie, jusqu'à sa mort, à une allocation universelle. Et, alors ça va encore beaucoup plus loin, de considérer que cette allocation n'a aucune raison d'être attachée au travail, mais d'être attachée tout simplement à son droit.
Droit à la vie.
Voilà, exactement, droit à la vie. Alors, maintenant, nous vous écoutons.
Alors, c'est vrai que beaucoup d'économistes belges de l'université de Louvain ont travaillé sur cette question. C'est une question qui taraude beaucoup de personnes. Le frère de Luc Ferry, Jacques Ferry, a aussi proposé ça. C'est l'idée, finalement, aujourd'hui, de découpler la contrainte du revenu. Aujourd'hui, tu dois gagner ton pain à la sueur de ton front. Et si tu veux avoir un revenu, tu dois souffrir en travaillant. Bon. Alors, l'idée, au départ, c'est Thomas More, dans l'Utopie, 1516. Il dit, et c'est ça qui m'a inspiré, finalement, au départ de l'humanité, l'humanité appartenait à tout le monde. L'eau, le ciel, la terre, tout appartenait à tout le monde. Les forêts, la mer, enfin tout ça, c'était un patrimoine commun. Et au fur et à mesure du temps, ce patrimoine a été approprié par partie de la population, peut-être pas de manière parfaitement équitable. Donc, l'allocation universelle, c'est une sorte de dividende de l'histoire, c'est-à-dire une sorte de contribution au patrimoine, à l'héritage commun d'une nation, et qu'on doit restituer à chaque individu pour qu'il ait une part de cet héritage. Donc c'est ça l'idée. Et effectivement, ça a été repris par Thomas Paine, et l'idée, c'est qu'effectivement, on la donne à tout le monde, aux riches comme aux pauvres, parce qu'à partir du moment où vous distinguez entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, vous créez une sorte de supériorité morale de celui qui ne perçoit pas et une infériorité morale de celui qui reçoit. Donc le meilleur moyen, c'est de la donner à tout le monde. Et ce que j'ai essayé de faire, parce que beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur cette question étaient des utopistes, donc ce sont des philosophes. Moi, je me suis amusé à prendre ma calculette, voilà, et à chiffrer ce que ça représentait.
Par rapport au mur de l'argent.
Voilà.
Par rapport
au... Et donc, j'ai proposé un chiffre de 750 euros par mois à vie. 9 000 euros par an, 750 euros par mois, qui est en gros le seuil de pauvreté en France. Mais en contrepartie, évidemment, je supprime les allocations familiales, par exemple, puisqu'elles sont moindres que ce chiffre. Je supprime les bourses, parce qu'elles sont moindres que ce chiffre. Je supprime les allocations chômage, puisque je crée une sécurité professionnelle pour ceux qui sortent ce revenu. Je supprime les aides au logement, je supprime la retraite pour ceux qui commenceraient à percevoir, évidemment, ce droit, puisque jusqu'à leur mort, on percevrait 750 euros par mois, qui, évidemment, ne serait pas annulé par un salaire, contrairement au RMI ou au RSA. C'est-à-dire que si vous touchez ou si vous gagnez le SMIG, 1 000 euros par mois, eh bien, vous allez percevoir 1 750 euros par mois. Et donc, j'ai fait tous ces calculs et j'ai montré à ma grande surprise, enfin, ce n'est pas ma grande surprise, parce que je connaissais quand même ces chiffres, que ça ne coûterait pas beaucoup plus cher à l'État que les dépenses sociales d'aujourd'hui, qui, elles, sont presque aussi élevé en chiffres, mais beaucoup plus inefficace et ne crée pas une sorte de sécurité chez les Français ou d'anxiété par rapport à la vie qui est toujours très forte. Donc je fais l'utopie que cette allocation universelle créerait une sorte de sécurité, de droit à la vie, qui rendrait peut-être, mais c'est ça mon utopie, les Français en réconciliation avec l'argent, mais c'est un pari peut-être encore une fois un peu fou.
Alors, une réconciliation qui coûterait, vous dites ensuite, vous revenez à un domaine chiffré, en gros 100 milliards de plus par an.
Même pas.
Donc oui. À quelque chose comme 1%, enfin entre 1%.
C'est rien du tout. On fait un plan de relance de 26 milliards d'euros qui ne sert à rien. D'accord, donc voyez, non, ce n'est pas des sommes considérables.
D'accord.
Ça ne coûterait pas cher. Cette utopie est une utopie qui ne serait pas très coûteuse, en fait.
Et, oui, mais c'est un changement alors radical. Oui. Parce que là, au milieu de tout ça, il y a la culture judéo-chrétienne, il y a la valeur travail.
Travailler plus pour gagner plus.
La valeur travail. La première des valeurs morales. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le travail est la première des valeurs morales ?
Je ne le pense pas.
Moi non plus, je ne le pense absolument pas. Peut-être encore que quelques anciens cadres dirigeants, bien formés par 40 ans de sueur. Bon, mais non, moi non plus.
J'ajouterais en plus que le fait de percevoir cette rémunération en dehors de tout travail rendrait le goût au travail plus important. C'est-à-dire que si vous touchiez 750 euros par mois garantie,
sans rien faire. Ah oui.
Vous pourriez, finalement, vous seriez plus attiré pour travailler encore, puisque le travail, vous doublerez ou vous triplerez votre revenu. Donc finalement, aujourd'hui, le fait que 15% des Français ne sont pas payés plus que le SMIC crée cette smicardisation de la société qui est un facteur d'angoisse. Ce que je propose, en fait, c'est une révolution au bénéfice des plus pauvres de notre société, leur permettant surtout d'assurer la sécurité de leur existence. C'est ça qui est essentiel.
Mais ce que disent vos contradicteurs, Jacques Marseille, c'est qu'en fait, c'est aussi une prime à la paresse.
C'est ce qu'on dit.
Moi, je ne crois pas non plus. Hein,
C'est ce que certains disent. Et je reprends dans le livre la phrase d'un économiste belge de la fin du XXe siècle. Eh bien, tant pis pour les paresseux. C'est-à-dire que si vous estimez que 750 euros par mois vous suffit, à la limite, vous n'auriez pas été un bon travailleur. Et donc, contentez-vous de vos 750 euros. Eh bien, tant pis pour les paresseux.
D'accord. C'est ma réponse. Et tous les autres qui ne sont par définition pas paresseux,
ils iront mieux.
D'accord. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin fin de cet entretien. Je crois qu'il faudra qu'on recommence parce que je sens que vous aviez encore beaucoup de choses à dire. C'est donc un ouvrage audacieux, d'une clarté lumineuse, qui dérange, qui mêle le réalisme de l'historien avec les doutes de l'économiste et avec une conviction forte de l'humaniste sur la nécessaire adaptation au nouveau monde qui vient de s'ouvrir et que souligne bien entendu la crise financière mondiale. Vous êtes donc un utopiste de dominante libérale qui suppose en préalable la reconnaissance simultanée que le progrès historique réalisé passe par la logique de marché. Et je dirais que vous formulez un souhait que je rappelle et qui se trouve à la page 29 et qui vous honore. Si cet ouvrage avait pour résultat de réconcilier le perçu et le réel, de dissiper les clichés du misérabilisme, de dédramatiser les relations des Français avec l'argent et de leur proposer une vision plus optimiste de l'économie de marché, le pari serait gagné. Il est sans aucun doute présomptueux, mais peut-être pas insurmontable. Et en tout cas, c'est avec cet optimisme que nous allons conclure en vous remerciant mille et une fois et encore une fois en vous disant tout l'intérêt que nous avons pris à lire votre ouvrage que je rappelle, L'argent des Français, les chiffres et les mythes, Jacques Marseille, chez Perrin. Merci encore à vous.
Merci à vous.